Après les trois coups, le rideau s'ouvre. Les comédiens sont là, tapis dans l'ombre. Tous en scène, l'émission de Prune sur l'histoire du théâtre. Rencontre avec un auteur, extrait de pièces, interview, clin d'œil de la comtesse Rostropovitch, actualité de la scène nantaise. Anna vous entraîne chaque deuxième samedi du mois, de 12h à 13h dans les coulisses des théâtres d'ici et d'ailleurs, sur Prune 92 FM et en DAB+ sur Saint-Nazaire.
Bonsoir, on est ensemble pendant une heure dans Tous en scène, l'émission de Prune sur l'histoire du théâtre. Tous en scène, c'est une heure pour découvrir un dramaturge phare de l'histoire du théâtre à travers l'une de ses pièces. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à Vajdi Mouawad. Tous en scène, ce sont trois rubriques encadrant la pièce choisie. Pour débuter l'émission, un survol biographique de Vajdi Mouawad et une exposition des enjeux abordés dans sa pièce littorale. Puis aujourd'hui, deux interviews polyphoniques qui porteront pour la première sur l'univers de Vajdi Mouawad et pour la seconde sur des souvenirs de théâtre. Ensuite, une chronique légèrement décalée à travers le clin d'œil de la comtesse Rostropovitch scande ce tourbillon théâtral. Enfin, une ouverture sur l'actualité de la scène nantaise permet de terminer cette parenthèse théâtrale du deuxième samedi de chaque mois de 12h à 13h. Tous en scène, c'est donc parti avec, comme première rubrique, l'éclairage biographique.
Éclairage biographique dans Tous en scène sur Prune 92 FM en compagnie d'Anna.
Vajdi Mouawad est né le 16 octobre 1968 au Liban, patrie qu'il quitte à l'âge de 8 ans suite à la guerre civile qui y sévit. Exilé d'abord à Paris avec sa famille, il rejoint le Québec en 1983. Sa passion pour le théâtre est intense. Metteur en scène avec deux pièces, Al Malja en 1991 et L'Exil en 1992 de son frère Najim Mouawad, puis avec de nombreux auteurs comme Sophocle, Euripide, Shakespeare, Pirandello qu'il propose avec la compagnie Théâtre au Parleur qu'il co-dirige avec Isabelle Leblanc, et dans le même temps, il signe les mises en scène de ses propres textes. Directeur artistique du Théâtre français du Centre national des arts d'Ottawa, directeur du Théâtre de Quatre-Sous à Montréal, artiste associé au Festival d'Avignon en 2009. Depuis 2016, directeur du Théâtre de la Colline à Paris, il n'a de cesse de réinventer, de se réinventer. Le 2 juin 1997, il signe avec Littoral le premier volet d'une tétralogie nommée « Le sang des promesses », tétralogie qui s'achève avec Ciel le 18 juillet 2009. Les deux opus centraux sont « Incendie » et « Forêt ». Avec cette sorte de saga, Vajdi Mouawad entreprend de parler de la mort. En effet, Littoral raconte l'histoire d'un père mort et de son fils qui veut à tout prix lui offrir une sépulture dans son pays natal, là où déjà siège à jamais sa propre mère. Dut-il se battre contre sa propre famille pour parvenir à ses fins? La pièce rend compte de ce périple étrange où la charge du deuil est évoquée par plusieurs voix. N'oublions pas que le jeune Wilfried est réveillé par un appel au milieu de la nuit alors qu'il est dans les bras d'une déesse dont le nom lui échappe, pour reprendre ses termes. Il est donc réveillé par ce, je cite, « Dring allo venez, votre père est mort », sorte de leitmotiv qui scande toute la pièce littorale. On peut, de manière espiègle, penser aux premiers mots du roman « Zazie dans le métro » de Raymond Queneau avec ce fameux « Mais d'où qui pue donc tant ?» Autre mot à rallonge, à ne prononcer qu'en un seul souffle et traduisant notre difficulté à parler du monde qui nous entoure et dans lequel nous évoluons. Je vous laisse méditer.
Voici venu le temps de la pièce choisie sur Prune 92 FM et en DAB+ sur Saint-Nazaire, en compagnie d'Anna pour l'émission Tous en scène.
Plutôt que de vous lire certains passages de Littoral, pièce dont j'avais l'intention de vous parler aujourd'hui, elle est d'ailleurs reprise au Théâtre de la Colline à Paris dans le 20e arrondissement du 15 au 30 décembre, j'ai décidé de recueillir quelques voix voyageuses entre Nevers, Orléans et Nantes qui vous livrent leur ressenti sur ce qu'ils connaissent de l'univers théâtral de Vajdi Mouawad. Dans quelles circonstances avez-vous entendu parler de cet auteur Vajdi Mouawad pour la première fois ?
Eh bien, j'en ai entendu parler la première fois, je crois, lorsqu'il a présenté à Avignon ses créations. Et puis ensuite, il est devenu artiste associé au Grand T à Nantes. Et j'avais pas eu de place pour aller voir ses spectacles. Donc j'ai lu d'abord ses pièces et ensuite j'ai découvert ses mises en scène, mais beaucoup plus tardivement. Voilà.
À la radio, dans diverses émissions consacrées à l'actualité culturelle et au théâtre en particulier, il y apparaît comme une figure incontournable de la scène théâtrale en France.
Parce que l'année dernière, j'ai interrogé des élèves sur cette pièce et donc j'étais obligée de la lire.
Alors, qu'est-ce qui vous a touché plus particulièrement dans l'univers de ce dramaturge metteur en scène par rapport à ce que vous avez lu ?
D'après ce qu'il dit de lui et de son travail, je l'imagine comme un artiste complet, un créateur de formes. Il parle beaucoup d'écriture, mais au sens large. Cela ne concerne pas que les mots, il y a aussi les sons, les images, puis le travail scénique avec les acteurs.
Ce qui me touche dans son travail, c'est, je pense, quand il parle de lui intimement, mais aussi dans ce qu'il a d'universel, mais en fait c'est la même chose. J'apprécie moins son travail quand il essaie de faire parler d'autres gens. Je trouve qu'il a plus de mal à aller chercher des choses qui me parlent à moi, en tout cas. La dernière fois, là, quand j'ai vu Mort prématurée d'un chanteur, j'ai été vraiment super déçue, sauf les moments que j'ai trouvé très beaux où c'était lui, du coup, qui parlait. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressentais.
Le problème, voilà. C'est que j'ai senti que je ne comprenais pas grand chose, c'est pas ça, mais s'il y avait des choses qui m'ont alors touché, je sais pas, j'ai trouvé que c'était assez, je suis même plus sûre, assez violent, assez, comment dirais-je, assez instantané concernant les émotions, que ça arrivait comme ça, un peu de manière, je sais pas, désorganisée, enfin bon, mais parce que j'ai pas eu la totalité en fait. Ça m'a paru, j'ai pas eu envie de continuer en fait.
Oui, mais Incendie raconte justement l'histoire d'une mère qui a été violée et toute l'histoire tourne autour de par qui a-t-elle été violée. Et Vajdim Ouawad en fait est un auteur qui a connu l'hiver de la guerre au Liban quand il était petit. Et toute une partie de son œuvre est très empreinte de tous ces traumatismes de l'enfance qu'il a connus. Et où, à mon avis, une partie de son œuvre sert à une sorte d'exutoire pour lui, pour parler de cette
après,
violence.
Je suis plus sûr que ce soit incendie, c'est peut-être. Il n'y avait pas une histoire de terrorisme aussi ?
Si, il est aussi question de ça dans.
Ah oui, dans Incendie ? Non,
oui.
Parce que.
Oui.
Parce que justement, je serais incapable de dire de quoi ça parle exactement.
Parmi les spectacles que vous avez vus de lui ou des pièces que vous avez pu lire, quel est celui qui a le plus retenu votre attention et pourquoi ?
En fait, la pièce qui m'a le plus plu, je crois que c'est, je ne l'ai pas vue au théâtre, je ne l'ai pas vue jouer, je l'ai lue simplement. Je crois que c'est Incendie. J'aime beaucoup la façon de superposer, enfin pas de superposer, mais de se faire rencontrer différentes réalités dans des temps différents. Ça me touche beaucoup. Voilà.
Je n'ai ni lu ni vu ce spectacle, seulement la pièce intitulée Incendie, dans sa version radiophonique. L'histoire d'une mère et ses deux fils, une mère qui a perdu l'usage de la parole ou qui a décidé un jour de ne plus parler, je ne me souviens plus exactement. On peut y voir un rapport avec son histoire et l'histoire de son pays d'origine, le Liban. Il dit venir d'un pays qui n'a plus de mémoire, un pays confronté à la difficulté de transmettre le souvenir de la tragédie de la guerre civile. Ce personnage de femme muette dit sûrement quelque chose de cette réalité-là.
On serait tenté de dire que l'écriture vajdienne est empreinte de la palette psychanalytique, comme si le dramaturge metteur en scène n'en finissait pas de visiter et de revisiter le prisme de son inconscient à travers le spectre de l'arme théâtrale. À votre avis, que veut nous dire Vajdi Mouawad sur le monde, notre monde actuel, lorsqu'il interroge ainsi la question de l'origine en la remettant à l'honneur?
Ce que j'en ai compris, mais vraiment c'est très petit ce que j'en ai compris, je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais que le monde est d'une violence folle, quoi. C'est ce que j'ai retenu, en fait.
Ce qui apparaît déterminant, c'est le parcours personnel de l'auteur, ses origines libanaises, la famille qui fuit la guerre civile, puis l'exil. Il y a cette déchirure. Et aussi le regard qu'il porte sur ce pays. Il explique ainsi son besoin de narration, son besoin de raconter des histoires, comme un des fondements de sa démarche artistique.
Ce qu'il veut dire... moi, ce qui m'intéresse, ce que je comprends de son travail, c'est ce qui m'interroge dans tous les mythes qui interrogent les questions fondamentales de l'humanité. Il parle des origines, de la loyauté, de l'identité, de sa construction, de la nécessité d'accepter l'autre, de l'accueillir, même s'il est différent et difficile à comprendre. Ça me paraît crucial dans notre époque, là, de faire baisser toute certitude et en même temps de garder des convictions profondes.
En 2011, Vajdi Mouawad a proposé à 50 adolescents venant de Nantes, Namur, Mons, l'île de la Réunion et Montréal de rebondir sur une réplique de sa pièce « Incendie », deuxième volet de sa tétralogie « Le sang des promesses » où une grand-mère dit à sa petite-fille « Si tu veux t'en sortir, tu dois apprendre à lire, écrire, compter, parler et penser. » Il a utilisé ces 5 verbes pour les associer à une année et à un voyage dans une ville. Lire à Athènes, écrire à Lyon, compter à Auschwitz, parler dans un pays d'Afrique et penser au cours d'un voyage en mer. L'aboutissement de ce projet n'a pas été une création théâtrale, mais bien plutôt une expérience théâtrale, une aventure de vivre ensemble et autour d'un projet pluriel et fédérateur, capable d'enrichir le regard que l'on porte sur notre monde et de construire à plusieurs, 50 jeunes adolescents et une vingtaine d'adultes, une cathédrale de souvenirs communs. Ce projet a été nommé « Avoir 20 ans » en 2015. Et on ne peut s'empêcher de penser à la formule utilisée par notre président Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée le mercredi 14 octobre dernier. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Interrogeons-nous sur cet âge 20 ans et qu'est-ce qui se joue à ce moment de notre vie et quels sont vos souvenirs, vous, de cet âge que vous avez connu ou que vous êtes en train de vivre?
Alors, moi, je pense qu'effectivement, en 2020, c'est difficile d'avoir 20 ans. Au vu de la violence du monde, c'est pas tant au vu de la violence du monde parce que je pense que la violence, elle a toujours existé. Simplement, en tous les cas, en France, elle est depuis quelques années complètement apparente, elle fait partie de nos vies, donc ça c'est quand même très nouveau, je pense, et c'est très nouveau pour la majorité des gens qui arrivent à vivre correctement, enfin, avec un salaire, etc. Maintenant elle surgit de partout, je pense qu'elle n'a plus de limite, je pense que la violence n'a jamais eu de limite, mais une fois de plus on l'a vu au quotidien, pas directement, mais enfin bon, on est en plein dedans. Donc ça, pour un jeune, je pense que c'est dur. Ce qui est dur, enfin, d'avoir 20 ans en 2020, je pense que par rapport aux perspectives d'avenir, je pense que c'est compliqué pour eux actuellement. Non, après tout ce qui se passe, enfin, la planète qui est en train d'être abîmée de plus en plus vite. Enfin, c'est pas nouveau, là, ça va de plus en plus vite. Et c'est d'imaginer des perspectives d'avenir et en même temps, je pense que quand on a 20 ans, on a plein de projets, si on n'est pas déprimé, on dit qu'on a plein de choses à faire et on est dans le ici et maintenant et on a une espèce de dynamisme. Donc je me dis, est-ce que c'est plus dur que quand moi j'avais... Est-ce que c'est plus dur que quand moi j'avais 20 ans? Moi, à 20 ans, j'avais envie de changer le monde. J'ai arrêté. Hein. J'ai médité, mais j'ai arrêté parce que je me suis dit, pas possible. Donc dans le cadre de mon métier, je dis pas que je change, mais enfin à mon petit niveau, je fais quelque chose, voilà. Donc je trouve que ma vie a un sens. D'un point de vue, on va dire, d'un point de vue, enfin par rapport aux autres et par rapport à moi-même. De toute façon, 20 ans, je trouve que c'est pas non plus un super âge, en dehors du fait qu'on est jeune. Parce que moi, par exemple, à mon âge, à la limite, je me sens mieux dans mes baskets que quand j'avais 20 ans, parce que je trouve qu'on apprend, on a davantage de recul sur les choses, on se dit que bah, quand il y a quelque chose de grave qui arrive, eh ben, ma foi, il y a de l'espoir quand même, enfin, il y a quand même un futur, un avenir, et que ça va passer, que les choses sont en mouvement, donc voilà, je pense que 20 ans pour les jeunes actuellement, c'est dur, mais bon.
Merci Claire.
À 20 ans, chercher sa place dans la société. Une période assez indéfinie, mais dont malgré tout je garde un souvenir prégnant. Le souci de prendre la bonne direction, de ne pas céder aux multiples injonctions. Jauger ses forces et ses faiblesses. Une décision essentielle, quitter ma région d'origine pour Paris, le lieu de tous les possibles.
J'avais 20 ans, moi, en 1993. Donc c'était un moment où on avait plein d'espoir. On avait le rideau de fer qui était tombé. Pour revenir à Mouawad, la guerre au Liban était terminée. On était plutôt dans un monde où on avait l'espoir d'une construction de quelque chose d'ouvert, quoi. Et on n'avait pas encore conscience, je crois, de tous les enjeux qui sont arrivés et qui étaient déjà en construction, hein, les enjeux environnementaux ou géopolitiques. En tout cas, bah, en vivant à Nantes, là, en grandissant à Nantes, on n'était pas... Ouais, on n'avait pas conscience de tout, je pense. On allait au Grand T, ça s'appelait l'Espace 44. On avait une offre culturelle qui était... Bon, qui était exponentielle. Enfin, c'était formidable, quoi. Le monde paraissait... plein d'espoir. Là aujourd'hui, moi, c'est ma fille qui va avoir 20 ans, ma fille aînée. Pour moi, elle grandit dans un monde qui est plus dur et plus angoissant. Des fois, elle dit, mais ça, c'est votre vision du monde. Elle dit pas que c'est facile, mais ça me laisse penser que tous les jeunes, chaque jeune là, à son époque, a des adaptations à trouver et ça me donne l'espoir que la jeunesse trouve son adaptation, quoi. Ils sont formidables. J'ai l'impression qu'ils ont des défis beaucoup plus grands que les nôtres à relever. Voilà. Chaque époque a sa façon d'être à 20 ans. Et s'adapte forcément. Et pour revenir à Mouawad, je pense qu'à 20 ans... l'art, se trouver dans l'art, c'est une des façons de se projeter, de se projeter, de se protéger aussi. Ça rend la vie plus facile et plus lisible. Et c'est un endroit où on peut rencontrer les autres et être ensemble pour avoir 20 ans, quoi. Voilà, merci.
Un grand merci à Claire, Gilles et Marine pour ce temps de partage autour de Wajdi Mouawad. Vous aurez peut-être reconnu en fond sonore You and Old Army et Like Spinning Plates, deux chansons de Radiohead, en plus de la musique originale écrite par Grégoire Hetzel, compositeur français que le cinéaste Denis Villeneuve a choisi pour son adaptation cinématographique de 2010 de la pièce Incendie de Wajdi Mouawad, dans laquelle deux jumeaux, un frère et sa sœur, partent à la recherche de leurs pères et frères au Moyen-Orient après la mort de leur mère.
Enfin, un peu de pluralité avec ces voix nouvelles que nous réserve l'interview. Vous êtes bien sur Prune 92 FM et en DAB+ sur Saint-Nazaire en compagnie d'Anna pour l'émission Tous en scène.
Comme il s'avère compliqué de faire des interviews ces derniers temps, j'ai eu envie de donner la parole aux spectateurs et spectatrices de théâtre afin qu'ils nous fassent un peu voyager dans leurs souvenirs théâtraux. Le mot théâtre vient du grec théatron, qui signifie « endroit d'où l'on voit ». Cela reviendrait-il à dire que lorsque l'on est au théâtre, on occupe une place de voyeur ? Certes, assis à notre place, face à l'espace scénique, on devient celui qui voit, celui qui regarde, celui qui est passif, sans possibilité d'interagir avec ce qui se passe sur scène. Cependant, on rit, on pleure, et on peut même décider de quitter le lieu de la représentation. Nous ne sommes donc nullement en ce lieu privé de nos libertés. À d'autres époques, on s'octroyait même le droit de jeter sur les comédiens toutes sortes de mets indélicats pour marquer notre désapprobation et même de stopper la représentation si certains propos ou actions ne faisaient pas l'unanimité du public. Toutefois, la donne semble changer. On voit bien que certains metteurs en scène contemporains rompent avec cette définition, s'octroyant le droit de faire participer le public avec ce qu'il advient sur scène, rompant alors avec ce que l'on nomme le quatrième mur. Ainsi, pour ne citer que quelques exemples, le metteur en scène Jean-François Civadier, dans sa mise en scène de Don Juan de Molière, fait intervenir Don Juan, interprété par Nicolas Bouchaud, auprès des spectateurs. Ce dernier franchit le quatrième mur et vient dans le public, offrant ici et là des bouquets de fleurs à quelques femmes choisies par le séducteur. Un autre exemple serait celui d'Ahmed Madani, dramaturge metteur en scène dans Flamme. Pendant 2 ans, il donne la parole à des citoyennes rencontrées lors de différents stages dirigés dans plusieurs villes de France. Et à l'issue de ce voyage spatial, il nous propose un itinéraire dans un fauteuil puisque l'on suit pendant 1h30 les récits de la vie de ces femmes ainsi racontées sur scène. Alors, dans ce contexte si riche et si varié, quelle serait votre définition du mot théâtre ?
Pour moi, le théâtre, c'est un lieu où on rigole, où on s'amuse, on prend du bon temps.
Ah, une définition du mot théâtre. Alors pour moi, le théâtre, c'est un spectacle vivant qui est partagé par un public, qui nécessite des comédiens, des décors, des costumes, une mise en scène et puis bien évidemment un texte.
Une expérience collective du spectacle vivant, de la représentation au présent, à la différence du récit audiovisuel représentant le passé, et une dramaturgie, une écriture, des mots et le corps des acteurs sur scène.
Je pense effectivement que au théâtre, on est là pour voir ce qui se déroule sur scène, pas tant que ça, puisqu'effectivement on participe, même si on ne joue pas, on est là avec les comédiens, que c'est de toute façon le théâtre, c'est en direct, un art en direct. On est dans le ici et maintenant, donc on vit un moment, quand on regarde cette pièce. Alors après que des acteurs viennent franchir ce quatrième mur pour dans une mise en scène particulière pour se rendre auprès de certains spectateurs ou alors s'ils démarrent, tout est possible au théâtre. Enfin, je veux dire, à partir du moment, pour moi, c'est un moment c'est un moment qui dure une heure et demie. Enfin, bon, le moment de la pièce, c'est un moment où la pièce se déroule, mais les spectateurs sont là et donc ils vivent quelque chose avec la pièce. Et donc, c'est à partir de là, tout est possible.
C'est toujours une évasion. Je me souviendrai toujours quand Blaise m'a offert pour mon anniversaire une saison au théâtre de Chaillot, où nous avons pu aller toute l'année découvrir des œuvres de différents compositeurs, de différents artistes, toute l'année. C'était de la magie qui se renouvelait à chaque mois, en fait. Et là-dessus, on avait créé une petite tradition de boire un verre avant d'y aller. Donc ça avait créé cette magie dans des semaines un peu tristes où tu es au travail et tout d'un coup le soir tu te retrouves pour un verre et tu viens voir quelque chose. Et toi, Blaise ?
En ce mois de décembre, froid.
Ah oui,
et pourtant,
c'est la chaleur, la passion.
Nous aimerions tant aller au spectacle et tant nous projeter dans des vies alternatives. Vrai. Parce que quand tu vas au théâtre, c'est pour découvrir ton double, quelque part. Te projeter sur cette scène qui n'est une scène qu'autre que la tienne et de ta vie, qu'un miroir que tu n'oses regarder parfois.
À une époque où l'on tente coûte que coûte à rendre la culture théâtrale accessible à un plus grand nombre, en témoignent les multiples compagnies théâtrales créées ces 20 dernières années, les festivals variés à travers la France, les théâtres qui fleurissent ici et là dans nos villes, les cours de pratique théâtrale, les ateliers et pratiques artistiques dans les collèges et lycées, le choix d'un nouveau baccalauréat où l'oral tient une place primordiale. Et j'arrête là car les exemples sont encore très nombreux. Il est donc manifeste qu'apprendre à s'exprimer face à l'autre est un outil que nous apprenons de plus en plus jeunes à maîtriser. Alors, pour vous, quelle a été votre première expérience théâtrale et que vous a-t-elle apporté ?
Je pense que ma première expérience théâtrale, enfin, qui n'était pas du théâtre, c'est quand j'avais 9-10 ans qu'on faisait un rallye avec mes parents et ma sœur et que la dernière épreuve, c'était de chanter une chanson devant un public, devant les gens du rallye, donc des adultes, et ma sœur s'en rappelle encore. J'ai chanté La Bonne du Curé que je connaissais par cœur, avec les mouvements, etc. J'ai fait rire tout le monde et je me suis dit, ok, c'est bon. Et ça m'a plu. Et ben voilà, pour moi, l'expérience du théâtre, c'est alors s'exprimer. Oui, savoir s'exprimer, moi, ça me dérange toujours que des gens fassent du théâtre pour apprendre à s'exprimer. Je trouve que le théâtre, c'est un plaisir de s'exposer devant les autres, de se montrer, et puis de monter sur scène, et puis c'est une vraie jouissance, quoi, parce que quand on est sur scène, on n'est pas le même que dans la vie de tous les jours. Et alors, sans doute que pour les timides, il y a d'ailleurs des gens qui font du théâtre qui sont tout à fait timides dans la vie, enfin, ça n'a rien à voir, je trouve que c'est pas la même chose. La vie, le théâtre, ce n'est pas la même chose, et c'est pour ça, quand on parle de l'oral, le fameux grand oral, bon, c'est la vie, donc ça n'a rien à voir avec le théâtre, ou si ce n'est que passer des examens, c'est aussi un petit peu du théâtre, bien sûr. Parce qu'on n'est pas tout à fait soi, mais pour moi, c'est du mauvais théâtre, pour le coup. Voilà.
Alors, ma première expérience théâtrale, je l'ai vécue, cette première expérience, j'avais 12-13 ans. Et j'ai décidé de m'inscrire donc à la Maison pour tous, dans ma ville, où j'habitais donc à l'époque. Donc, c'est une sorte de maison de la jeunesse et de la culture, hein, la Maison pour tous. Et j'y allais donc tous les mercredis après-midi y faire du théâtre. On y faisait essentiellement de l'improvisation. Je ne l'ai pas forcément toujours bien vécu, cette expérience, parce qu'en fait, j'étais extrêmement timide. Et je voulais faire du théâtre. Mais j'y allais vraiment la boule au ventre. J'avais peur finalement de me mettre en scène. Je me retrouvais avec des personnes qui étaient un petit peu plus âgées que moi, des adolescents, des jeunes adultes. Et c'était pour moi une expérience parfois assez difficile. Mais j'y allais parce que j'aimais ces exercices finalement théâtraux et ensuite j'ai pu jouer ma première pièce en fait en quelque sorte. J'ai joué donc l'orchestre de Jean Anouilh et j'en garde un bon souvenir bien évidemment.
La première expérience théâtrale. C'était au collège. Il n'y avait pas d'enseignement dédié au théâtre, mais je me souviens d'une professeure de français en classe de 5e, je crois, qui aimait beaucoup le théâtre. Nous avions travaillé sur la pièce de Marivaux, Les fausses confidences. Première expérience pour le jeu du théâtre. Mais aussi, la même année, une première expérience de spectateur. Un voyage de fin d'année, nous sommes allés à Paris voir Les Fourberies de Scapin, de Molière, dans un grand théâtre à Paris, Théâtre Héberton. J'ai été très impressionné par cette expérience, la salle qui m'a paru immense tout d'abord, la troupe de comédiens virevoltant sur scène, et puis à la fin, ces comédiens qui sont venus nous voir au bord de la scène pour discuter avec nous. C'était une vraie découverte. Et il y a eu à la fois la magie du spectacle et puis la part de démystification en voyant ces personnages et acteurs des gens comme tout le monde. Voilà, ça reste une première expérience forte.
Alors, en tout cas, celle que j'ai en tête, ce ne sera peut-être pas la première, mais c'est celle que j'ai en tête. C'est au Théâtre de Nantes, La bonne âme de cette chanson.
Mise en scène par Irina Brook.
Oui, tout à fait.
Et que vous a apporté alors cette première expérience de théâtre ?
C'est indescriptible, en fait, ce que j'ai ressenti lors de ce spectacle.
Tellement. Tellement c'était magique, c'est ça ?
Oui.
Et en quoi résidait la magie ?
Les acteurs sur scène qui venaient par-ci, par-là, étaient très dynamiques. On en avait plein les yeux.
Pour moi, l'expérience théâtrale a été en tant que spectateur et elle a été très intéressante. J'ai eu la chance de grandir à Monaco où je pouvais aller au théâtre en tant que, comment dire, ça faisait partie de nos activités littéraires. Donc plusieurs fois par an, on pouvait aller au théâtre et je pense que ça fait vraiment partie d'une très belle éducation pour les enfants qui m'a fait aujourd'hui adorer le théâtre. Après, quand tu parles du fait que ça aide à s'exprimer, etc., c'est vrai que moi, je n'ai jamais pris de cours de théâtre et donc je ne peux pas dire quoi que ce soit là-dessus. Par contre, en tant que personne qui a travaillé dans les corporate, dans les grandes entreprises, je me rends compte et j'imagine que ça peut être très, très bénéfique, on va dire, pour les gens qui ont l'opportunité de se baigner là-dedans.
C'était au cinéma, voyez-vous.
Ah, mais c'est pas théâtral,
on
ça.
M'emmène au cinéma, mais là, je découvre le théâtre au cinéma. On allait voir qui veut la peau de Roger Rabbit.
Mais c'est pas du tout théâtral.
Donc, qui veut la peau de Roger Rabbit, je découvre le théâtre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des acteurs qui sont sur scène avec des personnages de bande dessinée et qui sont en train d'interagir les uns avec les autres sur une scène qui est la scène de ce théâtre, qui est mon premier théâtre, qui est cette salle de cinéma, dans laquelle je découvre cet art animé et cette possibilité d'une scène est transperçant finalement cet écran blanc avec ce cinéma. Je vois sur un plateau des acteurs jouer avec des personnages de bande dessinée.
Et alors, qu'est-ce que ça vous a apporté ?
Alors, ce que ça m'a apporté, alors énormément, au niveau de la maîtrise de soi, de l'envie d'être quelqu'un qui puisse faire que les choses arrivent. Dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, il y a cette volonté du personnage principal de réussir à gagner finalement son script. Et puis il y a cette Betty Boop qui est magnifique. Et donc moi, l'amour des femmes, ça m'a apporté cette envie de toujours me propulser sur une belle rousse avec cette poitrine et cette robe de gala rouge superbe. Donc oui, ça m'a apporté beaucoup de choses. C'est très sexuel.
La magie des salles obscures offre sur notre imaginaire une démultiplication des possibles. Nous avons tous vécu ce si court moment de silence durant lequel les lumières se tamisent avant de laisser l'alchimie scénique s'imposer, comme un temps suspendu qui nous permet de quitter notre vaisseau intérieur pour nous embarquer dans celui du spectacle à venir. Et on a tous été un jour bouleversés par une proposition magique de la réalité transfigurée qui est à jamais gravée dans notre patrimoine souvenir. Et vous ? Quel a été ce grand moment de théâtre, s'il ne fallait n'en retenir qu'un seul ?
Un grand moment de théâtre, la pièce « Home » de David Story, jouée au Théâtre du Rond-Point à Paris en 1985 ou 1986, une mise en scène de Chantal Morel, je crois me souvenir. Il s'agit de la vie quotidienne des pensionnaires dans un hôpital psychiatrique. Il y a des discussions, des déambulations dans un jardin. c'est le théâtre de la folie ordinaire. Un spectacle plein de magie qui m'a littéralement transporté et qui reste à ce jour une des plus belles expériences de spectateur.
Ah ben s'il ne fallait en retenir qu'un seul, ce n'est que Godot qui, en attendant, espère que son ami va venir le retrouver. Ce n'est que ce moment sublime où un être espère qu'un autre être va le retrouver, mais toujours dans ce doute, cette question pavlovienne de l'absence et du besoin.
Un grand moment de théâtre. Alors, j'en retiendrai deux. Un premier en tant que comédienne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai ma première pièce, finalement, dans laquelle j'ai joué l'orchestre de Jean Anouilh. Donc, pour moi, ça a été un très, très bon moment et de beaux souvenirs, puisque pour la première fois, je jouais devant un public. Donc, c'était vraiment formidable, finalement, ce que j'ai vécu à ce moment-là avec la troupe de théâtre. Et puis, l'autre grand moment de théâtre que j'ai vécu, c'est en tant que spectatrice. J'ai assisté à la pièce « À tort et à raison » de Ronald Harwood. Et j'ai vu donc Michel Bouquet qui jouait dans cette pièce et qui excellait. Et vraiment, c'est une pièce qui m'a énormément touchée, et surtout le jeu de Michel Bouquet. Vraiment, je l'ai trouvé exceptionnel, cet homme, dans cette pièce, à plus de 90 ans. Vraiment, voilà, vraiment, j'en garde un souvenir impérissable, en fait, parce que ça a été vraiment pour moi, vraiment, j'ai découvert ce comédien, cet acteur, il est d'une justesse, vraiment, c'était vraiment, voilà, un excellent, beau moment pour moi.
Il ne fallait qu'en retenir qu'un seul. Je me rappelle avoir vu Le Malade Imaginaire avec Michel Bouquet. Quand j'habitais à Chalon-sur-Saône, je devais avoir une vingtaine d'années, j'ai trouvé ça extraordinaire avec la comédie-ballet. J'ai adoré ce plaisir, enfin Molière de toute façon, et puis le déguisement, la musique, enfin le rythme, la comédie en fait, le fait de faire rire, même s'il n'y a pas que ça.
Là j'en ai un autre dans la tête, c'était à Paris, c'était Murat.
Et quel était ce grand moment de théâtre ?
Un jeu de lumière plutôt, de mise en scène de lumière.
De Joël Pommerat ?
Oui, plutôt Joël Pommerat, oui. Pas assez Cendrillon.
Finalement, avec la Covid qu'on connaît à l'heure actuelle, on a la possibilité de regarder des pièces de théâtre de chez soi sur un écran de télévision.
Ah, oui.
Et donc, qu'est-ce qu'on perd quand on est face à un écran de télévision par rapport à ce qu'on gagne si... Il y a une histoire de perdre et de gagner, mais par rapport au moment où on est justement dans la salle de théâtre avec d'autres spectateurs à côté de nous et avec les acteurs qui sont là face à nous en chair et en os.
Alors, quand on gagne, c'est la pièce de théâtre est souvent bien gratuite à la télé.
Je vois la comptable dans votre réponse. Je reconnais la comptable dans votre réponse.
Final, on perd plus, parce que quand on va au théâtre, il y a toute cette mise en scène, on prend les transports pour aller au théâtre, on fait la queue, on voit des gens, on fait des rencontres, on prend un verre, il y a les personnes qui nous placent, on leur laisse une petite pièce, on éteint tous notre portable, voilà, on se déconnecte pendant au moins une heure et demie, quoi. Quand on regarde la télé chez soi, il y a le téléphone qui reste complètement allumé. C'est complètement différent.
Vous dites on déconnecte. Ça veut dire qu'on déconnecte pour se reconnecter sur autre chose ?
Bah oui, oui. Mais c'est pas des écrans, au moins.
Et alors, c'est à quoi ? À quoi on se connecte quand on est au théâtre ?
À notre imaginaire.
Qu'est-ce que l'on perd face à un écran lorsqu'on regarde une pièce de théâtre devant son écran de télévision, par exemple? Eh bien, on perd justement toute cette partie vivante. Parce que quand on regarde une pièce de théâtre dans une salle de spectacle, on a l'impression de la vivre, et on la vit en direct d'ailleurs, donc on est beaucoup plus sensible à ce qui se passe, à ce qui se passe sur scène, à ce qui se passe aussi dans les coulisses, enfin, on peut l'imaginer, à ce qui se passe dans la salle finalement. Le public fait partie du spectacle, donc voilà, et puis le public aussi vibre à l'unisson donc au fil de la pièce, et c'est toute la différence avec justement ce que l'on peut faire ou avoir quand on regarde une pièce de théâtre devant son écran de télévision.
Bah alors moi je dirais qu'on perd pas tout, mais enfin précisément, bah voilà, un écran, bien sûr que les écrans ça permet de transmettre des choses, bien évidemment, mais aller voir une pièce de théâtre, on y est, là, on est, on vit le moment en direct, et voilà, c'est comme, ben c'est comme la vie, ça, c'est la vie, quoi. La vie, c'est en direct, et c'est pas par l'intermédiaire d'un écran, enfin, bon, voilà, les émotions sont là, même si on les vit, bien sûr, à travers les écrans, le cinéma, c'est encore autre chose, ben, c'est se déplacer, alors après, bon, après, ça peut être aussi... C'est le fait que ce soit vivant ici et maintenant, en fait. Le hic et nunc.
Ce que l'on perd face à un écran, c'est une question qui m'a toujours travaillé. Ce que l'on perd, c'est tout d'abord la présence physique des acteurs. Les fils invisibles, les silences, tout ce qui relie les personnages sur la scène. Les moments de suspension qui font tout le sel du spectacle théâtral. Pouvoir écouter, respirer au même rythme que les acteurs, c'est essentiel. Ensuite, ce que l'on perd, c'est la médiation de la caméra, la captation de la représentation, même s'il y a un souci d'approcher au plus près les conditions de la représentation du théâtre en temps réel, la caméra vient comme interférer sur le regard du spectateur. La caméra, elle découpe l'espace, elle guide le spectateur, par l'alternance des plans, elle reconstruit de fait une autre temporalité. Alors qu'au théâtre, le spectateur peut laisser aller son regard un peu partout sur scène, dans l'espace, mais aussi dans le temps.
Le théâtre, le théatron grec, endroit où l'on voit, comme nous l'avons déjà dit au début de ce micro-trottoir, semble redessiner ses contours, ses bornes, ses limites. Qu'en pensez-vous ? Et avez-vous une petite idée de ce que pourrait être le théâtre de demain ?
Alors, c'est rigolo que tu parles de ça, parce que à Florence, où nous habitons actuellement, qui est la ville de la Renaissance, les artistes locaux se veulent toujours un peu dans les choses nouvelles. Donc actuellement, ils ont décidé de faire un théâtre qui mêle l'olfactif avec le visuel, etc. Voilà.
Donc, pour s'y projeter, c'est imaginer en fait le public est sur la scène et c'est le public qui se déplace avec des choses qui se passent autour de lui, avec de l'olfactif qui se passe dans les airs tout autour. Donc c'est des choses très contemporaines. Qui touchent tous les sens, oui. Qui sont très belles. Maintenant, quand tu le demandes, Anna, qu'est-ce que sera le théâtre de demain par rapport à l'âge grec et au théâtre grec, moi j'ai envie de dire que le théâtre de demain, ce sera le théâtre que les gens ont envie d'aller voir. Et c'est déjà le théâtre d'aujourd'hui, mais chaque théâtre, chaque œuvre touche son public. C'est-à-dire que moi, aller voir des beaux guerriers grecs sur scène qui font des choses pas forcément catholiques m'intéresse. C'est quelque chose que je pourrais apprécier. Maintenant, aller voir du stand-up et du vaudeville, j'adore aussi. Et, et, Et donc,
c'est
le
juste
théâtre,
dans ton
le
humeur.
Théâtre de demain, ce sera toujours le théâtre de la société, parce que le théâtre est à l'image de sa société et qu'il doit être avant tout à l'image de sa société. C'est un reflet, c'est une parabole de ce que nous vivons. Aujourd'hui, le théâtre devra peut-être être un théâtre du Covid, avec des histoires autour du Covid, mais ce que nous espérons, c'est que le théâtre de demain, ce sera de nouveau le théâtre de la liberté, de l'amour et de la passion.
Vive le théâtre !
Le théâtre de demain, je n'ai pas vraiment d'idée, non. Théâtre est le reflet des évolutions de la société, comme toutes les disciplines artistiques. Alors, peut-être une influence sur l'espace scénique, la multiplication des objets, la technologie des images et des sons, tels qu'on les voit dans notre quotidien, probablement, les outils de support de communication qui envahissent la scène. Cette démultiplication des images, au risque de la saturation, me gêne un peu. Il ne faut pas oublier la fonction primaire du théâtre, qui est la scène, l'aspect le plus simple, corps des acteurs, les mots, le silence.
Alors le théâtre n'échappe pas, c'est vrai, à tous ces bouleversements de ces derniers mois, de ces dernières années, ces derniers mois avec le contexte sanitaire dans lequel nous sommes depuis quelques mois maintenant. Et puis c'est vrai que depuis quelques années, il y a cette révolution numérique aussi qui est en marche. Et elle touche bien évidemment tous les secteurs, tous les métiers, y compris celle de la culture, celui de la culture et du théâtre en particulier. Et c'est vrai que aussi, on a un rapport au temps, à l'espace, la relation aux autres, l'accès à la connaissance qui a changé. C'est indéniable. Maintenant, comment imaginer ce que peut être le théâtre de demain ? J'ai un petit peu de mal à me l'imaginer finalement, parce que pour moi, le théâtre reste avant tout un spectacle vivant, un art vivant. Et je ne conçois pas, en fait, un spectacle, une pièce de théâtre sans public, si vous voulez, en direct, en communion avec les comédiens. Voilà, si vous voulez, la seule solution que j'aurais à proposer, c'est revenir peut-être un peu plus au spectacle vivant, jouer à l'extérieur, dans des espaces extérieurs, comme pouvaient le faire les Grecs ou les Romains il y a quelques milliers d'années.
Bon, je pense que le théâtre de demain, ça peut être tellement de choses qu'on n'a pas encore imaginé. Alors justement, c'est histoire de voir, parce que moi, ayant fait du théâtre pendant des années dans le cadre d'un atelier, avec Jean Boschko, qui est décédé depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans, avait une idée tout à fait, je trouvais, novatrice du théâtre, et même il parlait parfois du théâtre sans public, parce que finalement, quand on joue, enfin, évidemment, à moins qu'on soit tout seul à jouer, mais quand on joue aussi pour les autres comédiens, et à partir du moment où on joue pour d'autres, même si ce n'est pas forcément le public, ça peut être tout à fait intéressant, parce qu'il y a l'histoire d'être vu et d'être regardé par d'autres. Moi, je pense que le théâtre, ça peut être plein de choses, et que voilà, que c'est ouvert à plein de choses. Et ce que je pense simplement, c'est qu'il faut que ça soit un plaisir. Il faut qu'il y ait une vraie, véritable jouissance d'être ensemble, de jouer. Voilà, le plaisir du jeu, ça pour moi, c'est jouer, c'est magnifique. Et puis on peut jouer dans la vie. Enfin, non, justement, jouer, c'est pas la vie. Enfin, dans la vie, on joue pas. On est plus, c'est pas être plus sérieux, mais comment dire, la vie, c'est pas un jeu, et en même temps. Enfin bon, mais le théâtre, c'est vraiment un jeu, et on le sait. Donc c'est bien. Enfin bon, voilà, ça permet de jouer comme quand on était petit. Ça, je trouve ça extraordinaire.
Bah, non, pas pour l'instant, j'ai pas d'idée.
Mais un grand merci à vous, Gabrielle.
Je vous en prie. Et vous, pour vous, c'est quoi le théâtre ?
pour moi, le théâtre, c'est un temps suspendu et un temps magique qui nous fait rêver.
Un grand merci à Claire, Gilles, Sylvia, Gabriel, Marthe et Blaise qui se sont prêtés à ces dévoilements sur les rapports qu'ils entretiennent sur le théâtre. En fond sonore, on vous a proposé « Divertissement à la hongroise » D.818 de Franz Schubert dans une interprétation au piano à quatre mains de Geno Jando et Ilona Pruny.
C'est l'heure du clin d'œil de la comtesse Rostropovitch sur Prune 92 FM.
Bonjour à tous et à toutes, chères auditrices et chers auditeurs. Ah là 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 là, tout change, même l'émission Tous en scène s'y met, bouleversant le contenu de certaines rubriques. Moi, je n'en peux plus. Je ne sais pas vous, mais tous ces revirements incessants et réajustements, confinement, pas confinement, présentiel, distanciel, 6 à table maximum, chacun chez soi, Noël, pas Noël, se faire vacciner, ne pas se faire vacciner, aller au théâtre, regarder chez soi dans son canapé, et j'arrête, car tout cela me donne le tournis. Une chose est sûre, c'est que cette sacrée Covid-19 n'a pas fini de nous emmerder. Ah, je m'excuse pour cet écart de langage. Certes, le maître mot actuellement est de ne pas faire de projets. Les uns après les autres, nous devons les réajuster, les ajuster en fonction des décisions étatiques qui sont prises. Ai-je besoin de le rappeler pour notre bien-être collectif? Et c'est bien ce qui nous pose problème à vous et à moi. Nous ne savons plus vivre dans l'instant présent. Notre quotidien est sans cesse cloisonné dans une somme de projets, de calendriers dans lesquels nous passons notre temps à consigner des ordres du jour sans fin, des plannings, parfois même sur plusieurs années à venir. Qu'est-ce qui nous fait avancer? Quel est notre moteur intérieur? On veut se croire éternel. On répète inlassablement que l'on n'a peur de rien. On se dit prêt à tout. Et tout à coup, un virus planétaire nous oblige à tout reconsidérer, à tout modifier pour la majeure partie d'entre nous. Et c'est bien dans ce moment-là la peur qui nous conditionne, la peur de souffrir, la peur de mourir. On veut y échapper, on veut se protéger. Alors, on hiberne comme les petits écureuils roux qui volent de branche en branche à l'automne pour faire leurs provisions avant de se mettre à hiberner. Ils passent jusqu'à 8 mois de l'année en état de semi-torpeur, durant lesquels ils ne boivent pas une goutte d'eau et ils ne sont pourtant jamais réveillés par la soif. On hiberne. Certains vont me dire que cela dure maintenant depuis la mi-mars. Et si nous avons bien compté, cela fait déjà plus de 8 mois. Quant à la soif, on ne peut pas dire qu'on vise à la sobriété. Et oui, il nous reste quoi quand nous sommes enfermés dans ces grandes villes qui deviennent parfois des cités dortoirs? L'image, me direz-vous? Eh oui, Replay Company. On vit donc par procuration depuis quelques mois. Heureusement, il nous reste le rêve, la littérature, la musique, la peinture, l'art avec un grand A et la création avec un grand C. Et même cela, je crois bien qu'on veut tenter de nous l'enlever. Cela nous fait trop cogiter et un citoyen qui pense trop, cela peut finir par agacer, par déranger. Alors, on le masque. Qu'il soit bleu, noir, rose, blanc, vert, qu'il représente des émoticônes, des fleurs, des carreaux et j'en passe, qu'il soit conditionné par des textures qui sentent bon le pétrole ou par des cotons qui pluchent ou par des soies les plus douces, nous protège-t-il vraiment de notre bêtise collective? Ah, les gestes barrières! On peut dire qu'on est vraiment mal barré en cette fin d'année 2020. Pourtant, elle rimait avec « très bien ». Je vous laisse en compagnie d'Anna pour l'actualité culturelle nantaise ou ce qu'il en reste.
L'actualité de la scène théâtrale nantaise dans Tous en scène. c'est l'agenda d'Anna.
Comme vous le savez, la pandémie mondiale que constitue la Covid-19 nous oblige à accepter de nombreuses restrictions qui touchent de plein fouet le spectacle vivant. Les salles de spectacle sont toujours fermées, même si on nous a laissé espérer une réouverture à partir du 15 décembre. Nous n'y sommes pas. Alors, vous l'avez vu ou entendu, les salles de spectacle s'organisent pour nous proposer en ligne de nouvelles formes. Ainsi, le TU à Nantes inaugure une saison parallèle depuis la mi-novembre. C'est un programme composé de créations originales et inédites réalisées par plusieurs artistes complices du TU. À ce titre, jeudi 16 décembre à 20h, vous pourrez découvrir en ligne, en vous connectant sur le site du Théâtre universitaire à Nantes, un film réalisé par Alice Gauthier, captation du spectacle « Mascarade » de Cédric Chardel. En ces temps masqués, un titre comme celui-ci ne peut que retenir notre attention. Je vous rappelle que la mascarade est un divertissement d'origine italienne et de caractère aristocratique, constitué par des scènes ou des entrées allégoriques, mythologiques, satiriques ou burlesques de personnages masqués, entremêlés de musique, de danse et de poésie. Ce divertissement a été une des sources du ballet de cour. Ah, ce fameux masque, il nous poursuit! Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Tous en scène, c'est terminé pour aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter de doux moments en cette fin d'année et même si nous ne sommes pas si nombreux pour faire la fête, réjouissons-nous à la perspective de temps meilleur pour 2021. Je tiens à remercier Blaise, Claire, Gabriel, Gilles, Marine, Marthe et Sylvia qui ont bien voulu me consacrer du temps afin de réaliser ces deux interviews polyphoniques sur le théâtre et sur l'univers de Vajdi Mouawad. Et bien sûr, un très grand merci à Jean-Pierre, à la réalisation, sans qui cette émission n'existerait pas. Et également à toute l'équipe de Prune 92 FM. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur www.prune.net. On se retrouve samedi 9 janvier 2021 de 12h à 13h pour une nouvelle émission de Tous en scène qui sera cette fois-ci consacrée à Marivaux. À suivre sur Prune 92 FM et en DAB+ sur Saint-Nazaire, l'émission 100 ans de cinéma. Bon samedi à toutes et à tous et à très bientôt. Quaaludes and red wine, demanding Billy Dolls and other friends of mine. Take your time. The sniper in the brain, regurgitating drain, incestuous and vain.
Victim, you just scream with boredom. You are not evicting time. Left your coat.